Bonjour à tous. Merci d'être là. On débute une nouvelle année. Ce matin, le sujet, c'est reconnaître et manifester sa nouvelle identité. Vous savez, au début des années, il y en a beaucoup qui aiment ça prendre des décisions pour les aider durant leur année. Je pense qu'avec ce message-là, ça serait bien aussi qu'on prenne la décision de vouloir vivre dans notre nouvelle identité. À chaque jour, vivre dans notre identité d'enfant de Dieu. Ainsi, on apprendrait à se voir les uns les autres comme Jésus nous voit. Savez-vous comment que Jésus nous voit? Mes bien-aimés, Et mes bien-aimés, Jésus nous voit au point qu'il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Si on verrait tout le monde de même, prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs, pensez-vous que ça changerait notre attitude des fois durant l'année? Il n'y aurait plus de chicane. On est prêt à donner notre vie pour l'autre. On aime assez qu'on va donner notre vie, mais si on vivrait notre nouvelle identité comme ça, laisser l'amour de Dieu nous imprégner pour vivre ainsi, on n'est pas capable dans la chair, ça changerait beaucoup les choses. Fait que c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette nouvelle année qu'on commence. Peut-être qu'on pourrait prendre cette décision-là de vouloir vivre dans notre nouvelle identité. On va prier. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous as données, Seigneur, encore dans cette année qui s'est passée. Ça nous a aidé à mieux te connaître, à grandir dans la foi, Seigneur, à manifester de l'amour autour de nous. Tu as beaucoup de choses encore à nous apprendre dans cette année, Seigneur. Peut-être que ça va être l'année où tu vas revenir à nous chercher. Fait qu'on t'en remercie. Aide-moi à partager ce message. Seigneur, toutes ces choses que tu m'as mis à cœur pour que je puisse les partager à la gloire de ton nom. Merci. Amen. On va commencer à lire 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, il est important de connaître notre nouvelle identité. Car nous ne sommes plus définis par notre passé. On n'est plus connus selon ce qu'on a fait dans le passé, par nos erreurs, par les attentes du monde. En Jésus, notre passé ne peut plus nous enfermer dans une prison. C'est fini, c'est dans la prison du pécheur. Tout ça, en Jésus, ça a disparu. On est une nouvelle créature, comme il est écrit. Quand Dieu nous regarde, il nous voit, c'est écrit dans l'Ancien Testament, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Ça, il s'agit du peuple d'Israël. Il avait mis du sang sur les linteaux des portes. L'ange exterminateur passait. Et Dieu dit, « Ceux qui vont faire ça, eh bien, je mets que l'ange passe, je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Il n'y avait aucun péché. Dieu ne voyait pas son peuple, et pourtant, il y avait du péché dans le peuple, mais il le voyait à travers le sang qui allait couler pour les péchés. Puis dans notre nouvelle identité, Dieu nous voit comme ça, à travers le sang de son Fils qui a payé pour nous autres. Il n'y a plus d'accusation à faire. Satan ne peut plus nous accuser. C'est merveilleux. C'est même qu'on doit se voir aussi. Ça, en agissant même, ça nous donne la capacité de vivre dans la paix et dans la victoire. On est libéré du passé. Beaucoup de gens, vous savez, sont accrochés avec ça. Nous sommes maintenant nouvelles créatures. Cette vérité nous permet de marcher avec assurance. Elle nous donne une raison d'être, une direction. Notre vie a un but, puis notre but, c'est un but céleste. On veut désormais agir pour la gloire de Dieu. Nous voulons apprendre à mieux connaître notre Créateur, apprendre à mieux connaître notre Sauveur, qui qu'il est. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est écrit Jean 17, toi, je pense. Plus qu'on va connaître le Seigneur, plus qu'on va être heureux, plus qu'on va le glorifier aussi sur cette terre. On est des citoyens des cieux, nous dit la parole de Dieu. Hein? On n'est pas, pas un citoyen de Saint-Just, en réalité. Moi. On est citoyen des cieux. Notre véritable patrie est spirituelle, même si on vit encore physiquement sur terre. Par sa grâce, nous sommes co-héritiers avec Christ, nous dit Galates 4, 7. On va hériter. C'est quoi l'héritage qu'on va avoir? Ça va être tellement beau. Tellement beau. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qui nous attend. Je lisais un matin dans une lecture, « Essaye d'imaginer un endroit merveilleux. Tout ce que tu peux, là, où qu'il y a la paix, la joie, ces choses-là. » La parole de Dieu, elle dit, c'est des choses qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme, ce qui nous attend. Pourtant, je pense pas mal quand je suis là pour réfléchir des belles choses. Seigneur, tu ne penseras jamais assez pour comprendre qu'est-ce qui t'attend, ton héritage. C'est beau, hein? Nul ne peut nous ravir de la main de Dieu. La parole de Dieu est très claire là-dessus. On est, par sa grâce, nous sommes en sécurité pour l'éternité. La Bible a dit qu'on est scellé par l'Esprit. Tantôt, on a chanté un chant, il parlait de Daniel dans la fosse aux lions. Hein? Quand Daniel a été mis dans la fosse aux lions, le roi est venu, il a pris son sceau, puis il l'a mis sur... Personne ne pouvait entrer là. La porte a fermé. Personne ne pouvait entrer, aller sortir Daniel de là. Le sceau était mis par le roi. Quiconque aurait touché à ça, il s'aurait fait mettre à mort. La porte est scellée. Personne ne parlera. Dieu dit, j'ai mis mon sceau sur vous autres. Le sceau de l'Esprit. Personne ne peut vous ravir de la main de Dieu. Vous êtes scellés. Daniel, personne ne pouvait sortir de là, sous peine de mort. Dieu dit, j'ai mis mon sceau sur vous autres. Vous êtes mes enfants. Ça vous réjouit-tu dans le cœur? Ça me semble que hein, ça nous fait du bien de savoir ça. Personne, ni la mort. Là, c'est tout défini, hein? Ni la mort, ni la vie, ni rien ne peut nous sortir. On est scellé. Daniel, personne ne pouvait sortir de là. Le roi avait dit, tu es scellé là. Quand Dieu scelle une affaire, c'est plus fort que le roi qui a mis Daniel. Hein? Merveilleux. Hein? Si on leur demandait à des gens, quelle est ton identité? Beaucoup répondraient selon leur nationalité. Moi, je suis un Canadien. Hein? Ce serait bien. D'autres diraient, selon leur métier, moi, je suis un avocat. D'autres pourraient dire, moi, je suis un médecin. L'autre pourrait dire, je suis un camionneur. Pour la pauvre fille de Timothée, c'est sûr. Ce serait pas, c'est pas mauvais. Mais l'homme naît avec une identité en Adam, selon le monde. Hein? Mais dans cette personnalité, l'homme est incapable de voir les choses selon le plan de Dieu. Si on a une identité juste de ce monde, on ne peut pas voir les choses comme Dieu les voit. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est impossible. Avec cette identité-là, terrestre, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Lisons Jean 1, 12. Heureusement qu'il y a ce verset-là, entre autres, qui est là. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » La nouvelle identité du chrétien, c'est le fait qu'il est réconcilié avec Dieu. C'est un fait, ça. Et pour avoir cette identité-là, cette personne-là, elle s'est reconnue pécheur. Elle s'est vraie, j'ai péché. J'ai commis des péchés. Elle confesse son péché à Dieu et elle se repent d'avoir mal agi. Et comme on vient de voir ici dans Jean 1, 12, elle a reçu Jésus-Christ, cette personne-là, comme son sauveur. Et ainsi, ça lui a donné une nouvelle identité d'être, comme il est écrit, d'être enfant de Dieu. Donc, c'est par la foi en Jésus que nous recevons cette nouvelle identité d'être des enfants de Dieu. Elle est marquée par une transformation qui commence à l'intérieur, ça se fait dans le cœur. Après ça, on l'avoue à l'extérieur. C'est les fruits de l'Esprit qui vont se manifester dans nos vies. Comme on voit dans Galates 5, 22 et 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, il y en a 9. Tous ces fruits-là se manifestent dans notre vie parce qu'on est une nouvelle identité. Notre identité vient de ce que Dieu dit de nous. Ça, c'est important à retenir. Notre identité vient de ce, parce que c'est Dieu qui le dit de nous. Il a tout accompli à la croix. Hein? C'est au-dessus, c'est écrit. Jésus dit, j'ai tout accompli. Mais ça nous rappelle aussi le prix énorme pour que nous ayons cette identité-là d'être enfants de Dieu. Nous autres, c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui a payé. Dans 1 Corinthiens 6, 20, c'est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et dans 1 Pierre 1, 19, c'est écrit, par le sang précieux de Christ. Ça coûtait cher à Jésus. Ça coûtait cher. L'homme peut nous définir selon nos erreurs, selon nos péchés. Hein, lui, c'est un bandit, c'est un menteur, c'est un ivrogne. On le connaît très bien. L'homme peut nous définir de même. Peut-être qu'il y en a qui vous définissent de même, qui vous observent et vous disent que si vous êtes ça. Mais Dieu dit, tu es pardonné, tu es racheté. Vous allez lire ça dans Éphésiens 1, 7. Dieu ne voit plus de même. Je t'ai pardonné et je t'ai racheté. L'homme peut dire, tu n'as aucune valeur. Ça peut arriver, quelqu'un s'est choqué après vous. Tu n'as aucune valeur à mes yeux. Hein? Il y en a qui sont méchants et qui vont dire des choses de même. Mais Jésus nous dit, tu es précieux à mes yeux. Vous pourrez lire ça dans Isaïe 43, 4. Jésus nous rappelle qu'il sera toujours avec nous aussi jusqu'à la fin des temps. On ne sera jamais tout seul. Donc, les paroles humaines sont instables. Elles changent souvent selon les circonstances, selon les émotions. Un jour, tu es un héros à leurs yeux. Et le lendemain, tu es un héros. Moi, je trouve ça drôle quand je n'écoute pas ça. C'est rare, quelqu'un comme mon gars est là, on va écouter les Canadiens de hockey. Mais là, quelqu'un nouveau joueur, hey, c'est un héros. Et là, mon gars, il voudrait la Coupe Stanley à Montréal. Mais même des fois, durant la saison, il n'est plus bon, on va l'échanger. Voyez-vous? C'est le même. C'est le même. Un jour, tu es un héros, puis le lendemain, tu peux être un zéro. Oui, c'est bon. Pas fort, hein? Mais la parole de Dieu, elle, est éternelle. Ce que Dieu dit, il ne change pas d'idée, hein? Il est toujours le même. Pour lire dans Isaïe 40, verset 8. C'est toujours la vérité qu'il nous dit. Donc, ne laissons pas le monde ou le diable définir qui qu'on est. Il faut faire bien attention à ça. De devenir prisonnier du regard ou des paroles des autres. Le monde et le diable veulent juste nous faire douter de qui qu'on est. Puis si on tombe dans le doute, là, les problèmes risquent de commencer. Adam et Ève, ils ont douté. Et qu'est-ce qui est arrivé, hein? Ils ont douté. Il faut toujours se rappeler qui qu'on est. On connaît pas mal tous l'histoire de Gédéon, hein? Gédéon, il était là, puis Dieu lui a parlé, « Ah, dis-moi, je suis plus pauvre dans ma famille. Je suis plus pauvre, je suis plus petit dans ma famille. » Il se voyait comme un zéro. Mais Dieu, c'est ce qu'il a dit, lui, hein? Dieu le voyait pas de même. Il dit, « Tu es un vaillant héros. » Ah, ouais! Ah oui, ça a changé sa vie. Quelqu'un qui s'est mis à se voir comme Dieu le voyait, ça a transformé complètement sa vie et Dieu s'est servi pour sauver son peuple de l'ennemi. Voyez-vous, ça prend juste un qui voit l'appel de Dieu sur sa vie puis reconnaît qu'il était un vaillant héros aux yeux de Dieu. Puis ça peut transformer beaucoup de gens autour de nous autres. Juste un. Peut-être que ça va être nous autres cette année. Ce veillant héros-là. Notre valeur ne dépend pas des critiques ou des échecs, mais de la voix du Père qui dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Lisons Éphésiens 1, 18. Je vous lis dans la traduction sommaire. Qu'il illumine, c'est l'Esprit qui illumine nos cœurs, hein, qu'il illumine, faites des recherches sur ce mot-là en français, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? On ne doit pas vivre ici-bas comme des orphelins, hein? Comme quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a pas de père. Mais nous pouvons marcher avec assurance et reconnaissance. Notre héritage commence avec le privilège d'être en relation avec le Seigneur. On est en relation avec lui qui tient tout l'univers dans ses mains. C'est merveilleux. C'est une richesse de vivre chaque jour avec le roi des rois, vous savez. Quand on vit ainsi, c'est comme ça que notre vie commence à se transformer. Dieu veut nous éclairer. On vient de le voir dans le verset. Il veut qu'on comprenne qui nous sommes en Jésus. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui disent, « Moi, je ne suis pas capable de comprendre ça. Je ne suis pas capable de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. J'ai de la misère à comprendre ça. » Puis ceux qui ne sont pas chrétiens disent que ce livre-là, il est trop compliqué à comprendre. Moi, je l'ai ouvert ça un peu, puis je l'ai reformé. Ils essaient de comprendre par leur propre intelligence. Souvent, c'est ça qui arrive, qu'on ne comprend pas, parce que Dieu veut, on a vu le verset, Dieu veut nous illuminer. Ça prend pas... Il y en a qui disent, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça. Pensez-vous que c'est vrai, cette parole? Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre la Bible. D'un certain sens, oui. Dans un certain sens. Humainement parlant, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Hein? C'est une folie pour l'homme naturel. Il est écrit de comprendre les choses de Dieu. Humainement parlant, on trouve ça. Je faisais des petites recherches. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Einstein? Vous devez connaître ça. Hein? Monsieur ben instruit, ça. Je regardais un peu un quotient intellectuel que cet homme-là était de 160, et on dit. Pas pire. Hein? Vous ne direz pas de mieux. Vous ne direz pas de mieux. Quelqu'un de normal est de 100. Lui, il est à 160. Fait que c'est quelqu'un vraiment intelligent. Pensez-vous qu'il pouvait comprendre la parole de Dieu par son intelligence? C'est par l'esprit, hein, c'est l'esprit qui illumine notre intelligence pour qu'on l'on comprenne, pour que nous marchions près du Seigneur. Plus près qu'on va marcher du Seigneur, comme l'apôtre Jean était couché, on l'a vu dans l'Évangile de Jean, c'est la dernière étude en passant mercredi. Hein. Fait que je vous invite à être toutes là. Ça ne fait qu'elle met de la peine, ça fait plusieurs, qu'elle met deux, hein, pour moi qu'on est là-dedans, qu'on regarde l'Évangile de Jean, verset par verset. Mais Jean était couché sur Jésus. Il était tout près de Jésus, plus près qu'on voit de Jésus. Hein, plus que notre cœur va s'ouvrir en étant enfant de Dieu, là, plus qu'on va comprendre les choses de Dieu, plus que Dieu va nous illuminer, puis plus qu'on va vivre heureux, plus qu'on va être joyeux. Le mot grec pour illumine, là, si vous avez un Bible online, c'est photizo. Ça suggère qu'une illumination a déjà eu lieu au moment de notre conversion. Quand on s'est converti au Seigneur, la lumière s'est faite. Clic. Moi, ça s'est fait, puis tout le monde, c'est comme ça. Mais ce mot-là suggère aussi que ça ne doit pas s'arrêter là. C'est progressif. Jour par jour, on doit continuer à saisir pleinement l'héritage que Dieu nous veut nous donner, la grandeur de Dieu. Et ça, il faut marcher, il faut se laisser éclairer par l'Esprit. Il faut faire attention à toutes sortes de distractions qui peuvent venir arriver dans nos vies. Et puis, on ne se laisse plus éclairer par le Seigneur et on marche dans une identité qui n'est pas la nôtre. Et on ne comprend pas toutes les choses de Dieu. Donc, ce n'est pas par l'intellectuel qu'on comprend ça. Mais c'est par l'Esprit qui nous ouvre la perception des vérités divines. Vous savez, souvent, les intellectuels, les scientifiques, ils ne comprennent pas ça. Parce que, comme je vous ai dit, c'est de la folie pour les autres. C'est une folie pour les autres. C'est de la folie, c'est de la parole de Dieu. Vous parlez d'Einstein tantôt, vous mettez une petite photo de ce monsieur-là. C'est un gars instruit, n'oubliez pas ça. C'est un gars intellectuel. Il voyait la Bible comment, lui? Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Hein. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Je n'ai pas parlé, hein. Il y a 8 que 20 mois. Il voyait ça comme un recueil de légendes primitives. Quotient intellectuel de 160. La Bible, c'est un recueil pour... C'est primitif, ça. C'est un vieux livre. Pas grand-chose à voir dans ça, là. C'est primitif, selon lui. Puis le mot Dieu, quand on lui parlait de Dieu, il voyait ça comme un produit des faiblesses humaines. C'est des faibles. Dieu, c'est pour les faibles. Voyez-vous, pensez-vous qu'il parle d'intelligence? Je ne pense pas qu'on est beaucoup à Saint-Just qui ont une quotient intellectuelle en haut de 160. Il ne faut pas croire avoir un quotient intellectuel trop élevé. Timothée, tu as quelque chose à dire là-dessus? Il n'y a pas de Saint-Just. Il n'y a pas de Saint-Just. Il y avait un beau sourire. Il y a... Fait qu'on voit, c'est pas par notre quotient intellectuel qu'on comprend ces choses-là. Hein. Dieu dit qu'il se révèle aux hommes, mais qu'il résiste aux orgueils. Ces gens-là, bien souvent, qu'ils sont très intelligents. On parlait de ça le jour. Mais imagine, hein, que quand tu comprends tout de suite, toi, tu comprends tout de suite. Là, ça dit prend du temps à comprendre. Toi, tu es là, tu comprends tout de suite. Ça devient dur pour lui de saisir un petit qui ne comprend pas à côté. Hein. Alors, il sent l'orgueil. Il sent l'orgueil. Maintenant, on va voir une madame qui a oublié son identité. Elle avait une belle identité, cette madame-là, mais elle a oublié son identité. Elle a vécu malheureuse pendant, je pense, 10 ans. Savez-vous de qui que je vous parle? Je vous laisse réfléchir avant de vous dire. On va tourner dans Ruth, chapitre 1, versets 20 et 21. Ma petite fille, le jour, elle a dit, je pense que je t'ai adopté, moi. On était au restaurant. C'est elle qui travaillait là, voyez quoi, mais elle travaille. Ouais. On était 7 personnes à table. Elle passe. Elle prend les menus. Elle n'a pas besoin d'écrire rien, elle. Elle se souvient tout. Tic, tic, tic. Elle fait le tour de la table, on est sur la boîte. Pas d'erreur, là. 7 personnes. Elle dit, je pense t'ai adopté. Elle dit, savoir, ça, oui, hein, pour ça, oui, elle aime bien ses parents. Ouais. Mais pour vous dire, pour ça, on discutait un peu. Il y en a, c'est le même, hein? Celui-là. Elle parle avec des Grecs, elle va parler en allemand, ça va bien. Hein? Moi, je fais des petits cours d'anglais, puis j'ai de la misère. Elle dit, je comprends pas ça. Elle dit, oui. Elle parle anglais comme il faut. Ah, ouais. Il y en a qui sont ici tout ouverts, hein? Mais il faut faire attention. Parce que si tu cette personne-là, ça, elle peut te former la parole de Dieu. Hein, je suis tellement instruit. Hein. Oui, elle ne retient pas son grand-père, on va appuyer les yeux. Romains 1, Ruth, c'est-à-dire 1, versets 20 et 21. Oui, ou même la vue une baisse. C'est ça. On va dire un gré air. Il y a des petits beaux que je sais. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, je n'étais pas dans la misère, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Et le Tout-Puissant m'a affligé. Donc, ce récit se situe à l'époque des juges. À cette époque-là, qu'est-ce qui arrivait dans le peuple d'Israël? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. À cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, on pourrait lire ça dans Juges 17:6. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, cela me résume bien l'état spirituel et social d'Israël. C'était la décadence dans le pays. Quand chacun fait ce qui lui semble bon, ça attire un déclin. Israël, c'était pareil comme un avion qui était en train de piquer du nez. Là. Il était en train de baisser. Il y avait un déclin dans le peuple au côté spirituel. Il s'éloignait davantage toujours de Dieu. Parce que chacun faisait ce qui lui était bon. On est libre. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce qui nous semble bon, mais à faire ce que Dieu déclare bon. On le répète pour qu'on s'en souvienne. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce qui me semble bon, mais à faire ce que Dieu déclare bon. Une grosse différence. Là, tu vas être libre. Donc, il n'est pas surprenant que Dieu envoie une famine dans le pays. Un châtiment qui avait pour but de les empêcher de sombrer davantage dans le péché. Dieu, il voyait, il courait, il s'en allait vers un ravin. Mais Naomi et son mari, et Élimélec et ses deux fils, qui n'étaient pourtant pas dans la misère, on voit qu'elle a dit qu'on était dans l'abondance, quittent le pays de la promesse. Israël, c'était le pays de la promesse. Ils décident de partir parce que ça leur semblait bon. On s'en va. Leur fils, il y en avait deux, il y en a un qui s'appelait Machlon. Ça signifie malade. Gros santé, petit gars, là. L'autre s'appelait Kijon. Ça veut dire languissant. T'as encore pire que son frère. Pas une grosse santé, là. Malade puis languissant. Alors, Michel, vous appelez de même? Malade. Grand malade, rentre. Il y avait un autre qui s'appelait comment, donc? Bête. Il y avait des drôles de noms, hein? Donc, je pense qu'avec de même, il aurait été préférable de rester dans leur pays et de se confier en Dieu au lieu d'émigrer en Moab. Car c'est là que son mari est mort, dans ce pays-là. Ainsi que ses deux fils. Ses deux fils, ils avaient marié en plus des Moabites. Et Dieu avait interdit de faire ça. On voit ça dans Deutéronome 23, 3 et 4. Dieu dit, faites pas ça. Il avait fait. Voyez-vous, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Naomi, on voit dans le contexte, elle revient à Bethléem, sa ville natale. Ses amis et ses voisins étaient très surpris de la voir revenir comme ça. Hein? Elle était partie pour le pays de Moab depuis 10 ans. Selon les commentaires, ils ont calculé, je n'ai pas fait... faisait 10 ans qu'elle était partie. On change un peu dans 10 ans. Hein? Mais vous, un jour, si vous me verriez dans 10 ans, vous ne m'aurez pas vu, on change un peu. On faisait des farces tantôt, on a des gréères. On commence à grisonner un peu. Hein? Lorsqu'il lui demande, est-ce bien Naomi? Elle leur dit de ne plus l'appeler ainsi. Parce que Naomi, ça signifie agréable. Son nom, Dieu lui avait donné l'identité agréable. Ton nom, c'est agréable. Elle a changé son identité. Or, sa vie en quittant Bethléem, en passant, c'est la maison du pain. Pour un pays éloigné, ça n'a pas été agréable de sa vie là-bas. Là, elle a vécu la souffrance et beaucoup, beaucoup de larmes. Les souffrances, les moments difficiles peuvent nous faire perdre de vue notre identité. Prenons garde. Elle leur demande de l'appeler Mara, qui signifie amère. Naomi ne se décrit pas comme une femme amère, mais comme ayant enduré des années amères, des années désagréables. Elle blâme plusieurs fois Dieu pour son malheur. Vous remarquez, c'est assez terrible, hein? Dans deux versets, comment quelque fois qu'elle a blâmé Dieu pour son malheur. Il m'a rempli d'amertume. Il m'a ramené les mains vides. Il s'est prononcé contre moi. Puis là, elle dit ça aux gens de sa ville. Accuse Dieu. Elle accuse Dieu. Mais il n'est pas écrit que Dieu l'avait frappé de malheur. Pas écrit. Mais nous voyons que c'est eux qui ont décidé de partir. C'est eux qui ont pris la décision. On route 1 et 2. Nulle part, il est dit, non plus qu'ils avaient consulté l'Éternel avant de partir. Ils ont pris la décision. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais de partir selon leur volonté pour Moab, qui était un pays étranger, en tension avec Israël, ça ne marchait pas main dans la main, ces pays-là. Là. Ainsi, Naomi se donne cette identité à partir de ses douleurs. Vous savez, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il faut faire bien attention quand on dit aux gens, « Ah, je suis malade, c'est Dieu qui m'a rendu malade. » Faire bien attention. Ça, Naomi, c'est ça qu'elle est en train de faire. Là. Quand tu perds ton identité, tu peux dire n'importe quoi. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Souvent, c'est le choix de l'homme qui lui a amené à être dans le malheur. Elle dit, « Appelez-moi Mara. » Naomi avait perdu de vue l'identité agréable que Dieu lui avait donnée. Pour savoir, selon son identité, qu'elle avait décidé qu'elle était. Une Mara, une femme qui est dans la misère. Je suis dans la misère, pauvre petit de moi. Il y avait un clown qui disait ça, ça, je pense ça. Là, bon. Disons Jean 15:4. Pour faire attention, pour agir comme Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Regardez ce que Jean 15:4 nous dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Dieu nous avertit. Hein? Si l'on ne demeure pas attaché au Seigneur, nous allons subir des conséquences. Puis dans nous là, nous pourrons penser que c'est la faute de Dieu ce qui m'arrive. C'est à cause de Dieu. Mais le Seigneur, lui, est toujours gracieux. Le Seigneur, il ne change jamais. Il est toujours gracieux. Tout le temps, tout le temps. Il voit toujours Naomi comme une femme agréable. Dieu, il n'a pas changé de son identité, lui. Il voyait Naomi comme une femme agréable à ses yeux. Dieu continue toujours à l'aider, à la bénir. Il lui donne une belle fille, Ruth, hein, on a vu. Mais Naomi, elle ne voit pas la bénédiction de Dieu encore, elle a. Elle se voit encore comme une mère, une femme qui est dans une vie désagréable. Puis Dieu, il place Boaz sur la route de sa belle-fille. Et celle-ci, elle va l'épouser. Cela va maintenir le nom du défunt mari. Ainsi, ils ne perdront pas l'héritage familial. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient partis, ils sont revenus, puis ils ont gardé leur héritage familial. Pour ça, ils ont tout rue leur terre, puis tout ça. Dieu, voyez-vous, il n'a pas changé d'idée, oui. Il est toujours gracieux. Sa belle-fille va enfanter un fils qui sera le grand-père du roi. C'est David, hein? C'était le grand-père du roi David. Donc, Dieu n'a jamais accepté l'identité d'amertume de Naomi. Il dit, tu seras jamais une femme désagréable à mes yeux. Naomi n'avait a perdu son identité. C'est elle qui l'a perdu de vue, son identité. Elle a perdu la capacité de le voir. Alors que le Seigneur l'a rejoint à où qu'elle était. Dans sa misère, Dieu est venu. Dans le psaume 107, il y a 4 exemples dans le psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Dieu il apprend où qu'elle était rendue dans sa vie désagréable, ce qui vient va tirer de là. Hein? Pour la restaurer dans sa vraie identité. Naomi croyait que Dieu avait formé son histoire. Elle dit, Dieu écrit comme un livre. Il a formé mon histoire. Je suis fini. Je suis fini. Mais Dieu tournait juste la page pour écrire un chapitre de la grâce. Il dit, ton histoire n'est pas finie, Naomi. Je n'ai pas formé le livre. Moi, pour moi, ta vie est tout le temps ouverte. Je faisais juste tourner la page pour t'écrire une page de grâce dans le reste de tes jours. C'est merveilleux, hein? C'est ça que Dieu... Des fois, on est là, puis on accuse Dieu, puis ouais, ça va mal dans ma vie. Dieu a formé mon histoire. Dieu ne forme pas notre histoire, jamais. Il nous voit toujours dans notre identité, dans notre vraie identité. Il dit, je t'aime, tout le temps, tout le temps. Romains 8, 17. Croyez-vous ça? Hein? Dieu vous aime? Romains 8, 17 dans le Sommeur. Et puisque nous sommes enfants, la Bible nous dit, il y en a qui ont dit, « Es-tu vraiment un enfant de Dieu? Peux-tu savoir ça? » Et puisque nous sommes enfants, est-ce qu'il y avait un doute? Aucun doute. Aucun doute. Nous sommes aussi héritiers. Tu n'es pas juste un enfant, tu es un héritier. Héritier de Dieu. Et donc, co-héritier de Christ, du Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, nous sommes les enfants du roi des rois. Un roi unique, puissant, hein, d'amour, plein de pardon, de fidélité. Les enfants d'un roi ont une dignité royale. On sait tout ça. Nous sommes donc des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Pas juste aimés un peu, bien-aimés, beaucoup aimés. Autrement dit, on peut dire qu'on est des princes et des princesses du royaume de Dieu, un royaume céleste. On est des princes et des princesses du royaume de Dieu. Dieu est notre Père, le roi des rois. Un enfant royal, c'est quelqu'un qui a une position, qui a un avenir assuré. Est-ce qu'on a une position? Est-ce qu'on a un avenir assuré? C'est sûr. Aux yeux de Dieu, nous sommes revêtus d'une dignité royale, appelés à vivre selon le royaume de Dieu. Je dois vivre donc dans cette réalité de ma nouvelle identité, à chaque jour. Un bon roi protège les siens. Il ne laissera pas son peuple se faire massacrer. Il est écrit, « L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien. » Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il dit, « Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Naomi, ça aurait compris ça. Elle n'a pas eu peur. Naomi, en perdant de vue sa véritable identité, fut malheureuse. Mais Paul, en vivant dans sa nouvelle identité, lui a vécu, il a marché de victoire en victoire. Paul, on sait, on connaît la vie de Paul, il marchait de victoire en victoire, parce qu'il marchait dans sa nouvelle identité. Sa force venait de Jésus, qui le fortifiait continuellement dans toutes ses épreuves. Ainsi, il reflétait Christ, et vivait, qui vivait en lui. Paul, on peut dire qu'il a vécu comme un prince. Non, on dit qu'on est des princes et des princesses. Paul, il a vécu comme un prince. Mesdames, si vous cherchez peut-être un exemple dans la Bible pour vous autres, vous pourrez lire l'histoire d'Esther. Je vous invite à aller faire un petit tour et lire ça, l'histoire d'Esther. Vraiment une personne qui a vécu aussi comme une princesse de Dieu. Je termine dans Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Vous savez, la retraite, ça a du bon. Hein? Tu peux fouiller dans la Bible, tu peux t'ouvrir, aller voir des personnages bibliques, faire des recherches. Ça a du bon aussi, la retraite. Là, on ne vous dit pas de courir vers la retraite. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. La Bible a dit qu'on doit se considérer comme le sel de la terre. Hein? Sans le sel, la vie serait bien amère, faible. La vie serait fade, serait bien amère sans le sel. Là où le monde est amer, Dieu veut qu'on apporte le goût du ciel. Et comment qu'on donne le goût du ciel au monde? En laissant Jésus-Christ vivre en nous. Paul, c'est ce qu'il a fait. Il a donné le goût du ciel. Il a marqué dans son nouvelle identité. On est le sel de la terre. La vie serait être amère autour de nous autres. Les gens sont amers. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est à nous autres de leur donner le goût du ciel. Et pour leur donner du goût du ciel, bien, il faut qu'il y en ait dans sa lière. Hein? Si tu mets du sel dans sa soupe et puis il n'a pas dans sa lière, ça ne donnera pas de goût. Mais Seigneur, c'est ça, qu'on est rempli et qu'on laisse vivre Christ en nous. Seigneur, mais qui met du sel sur quelqu'un qui est amer, comme on a vu Naomi, avoir le goût du ciel, le goût de lever les yeux et de regarder au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bonne nuit.